Les par actualité. Bonjour et bienvenue à l'émission Les Paractualités du 16 novembre 2017. Hélène Denis au micro et en manchette aujourd'hui, revenu minimum garanti, le maintien du statu quo pour les personnes ayant des limitations fonctionnelles. Qui aidera les aidants? Un jeune autiste invente un jeu de société à Donnacona. Cri du cœur des résidences intermédiaires en Mauricie. Les résultats de Pierre Mainville au championnat du monde d'escrime en fauteuil roulant. Et en entrevue, Sophie Bienvenu, auteure et blogueuse franco-québécoise, invitée d'honneur au Salon du livre de Montréal, qui viendra nous parler du syndrome d'Asperger et aussi de son plus récent roman Autour d'elle. Et aussi, j'aurai le plaisir d'avoir en entrevue Marie-Hélène Tanguay, responsable des communications à l'Association québécoise pour l'équité et l'inclusion post-secondaire, qui, elle, nous parlera d'un atelier gratuit intitulé « La communication et l'emploi ». C'est avec consternation que la Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec, la COFAN, a pris connaissance des deux rapports et des 23 recommandations du comité d'experts sur le revenu minimum garanti mandaté par le gouvernement du Québec quant à l'implantation éventuelle d'une forme de revenu minimum garanti. Le comité d'experts, étant composé exclusivement d'économistes, n'a pas suffisamment de variété d'expertise pour émettre une opinion sur la réalité des personnes prestataires du programme de solidarité sociale. La COFAN dénonce le fait que le comité d'experts ait retenu comme mesure de base la mesure du panier de consommation qui permet d'assurer la survie et non la vie des individus. Cette mesure est basée sur un panier de biens et de services essentiels, mais ne permet en aucun cas de sortir de la pauvreté, puisqu'elle ne tient compte que du strict nécessaire. Pire encore, le comité d'experts recommande que le revenu minimum garanti soit équivalent à 55 % de la mesure du panier de consommation, une recommandation totalement inacceptable qui maintiendra les Québécoises et les Québécois dans la misère et qui ne leur permettra pas de sortir de la pauvreté. La COFAN demande le seuil de faible revenu après impôt d'un montant de 20 675 $ avec une indexation annuelle du coût de la vie pour les prestataires du programme de solidarité sociale. Ce montant doit être bonifié afin de pallier les coûts supplémentaires liés aux limitations fonctionnelles. Qui aidera les aidants? C'est une chronique de José Legault dans le Journal de Montréal, la Semaine nationale des proches aidants, vous connaissez? C'était il y a quelques jours à peine, mais on en a très peu parlé. Pas très sexy comme sujet, il faut croire. Au Québec, les aidants naturels frôlent pourtant les 2 millions de personnes, dont 64 % sont des femmes. Dans cette vaste armée d'aidants aimants, j'en suis une parmi tant d'autres, sans soutien ou trop peu. Après l'avoir retirée d'une ressource publique d'hébergement où sa santé était mise en danger, ma sœur handicapée intellectuelle habite en effet avec moi depuis des années. La vérité toute crue, c'est la croix et la bannière. Un fonctionnaire a même eu le culot de me lancer cette perle. « Vous êtes journaliste, vous. Pourquoi vous ne vous payez pas une Philippine à la maison? » Un bel exemple de déresponsabilisation et de déshumanisation. De fait, on attend toujours un plan concret pour les proches aidants. Vieillissement de la population, cri du cœur ou cri d'alarme, rien ne semble pouvoir faire bouger le gouvernement Couillard. L'ex-ministre libéral Marguerite Blais a pourtant raison. L'adoption d'une stratégie nationale de soutien aux proches aidants est urgente. Même sur le plan budgétaire, ce serait payant pour le trésor public. L'État, donc nous, sauverait une fortune aux urgences tout en préservant la productivité et la santé des aidants. À terme, l'État économiserait aussi beaucoup en évitant une partie des placements des personnes vulnérables, âgées ou handicapées de tous âges. Ces « placements » entre guillemets se font souvent en ressources intermédiaires, privées, subventionnées par les fonds publics. Des ressources intermédiaires dont la qualité est malheureusement à géométrie trop variable. Un jeune autiste invente un jeu de société à Donnacona. C'est dans le courrier de portneuf.com. Un autiste de 17 ans et son père ont inventé un jeu de société qu'ils ont lancé à Donnacona le 11 novembre. Christopher Genois Langlois et son père Jean Langlois ont travaillé ensemble pendant plus de 2 ans pour mettre au point un jeu multimode qui s'adresse à des joueurs de 7 ans et plus. Christopher est autiste et épileptique et a reçu sa scolarisation à la maison pendant quelques années. Son père, bricoleur, lui a proposé de créer un jeu pour l'aider dans son développement. M. Langlois a conçu un prototype de planche de jeu et son fils s'est occupé des règlements. Ils ont fait breveter leur invention et ont dévoilé le jeu au grand jour samedi dernier à Place Donnacona. Jean et Christopher font d'une pierre deux coups. Le père réalise son rêve de jeunesse d'inventer quelque chose et le projet a été bon pour le développement de l'adolescent. Christopher s'est beaucoup impliqué dans le processus de création et celui de la réalisation du jeu. Et M. Langlois voudrait bâtir une entreprise pour son fils. Les concepteurs ont fait fabriquer 1000 jeux dans un premier temps. Le parcours PACRI Autiste, pas pour papa, écrit pour Christopher, est un jeu facile à jouer. C'est 4 ou 5 jeux en un, dit M. Langlois. Il ressemble au jeu de Toc, mais allie hasard et stratégie avec les 108 cartes spéciales à jouer. Il peut se jouer de 2 à 6 joueurs. Le niveau de difficulté varie selon les cartes et les règlements utilisés. Une centaine de jeux seront en vente lors du lancement à Place Donnacona et les inventeurs appuient la cause de l'autisme en remettant 1 $ pour chaque jeu vendu à l'organisation Espace VTSA Québec. Ces dons serviront à construire des maisons pour jeunes autistes de 21 ans et plus à Québec qui, espèrent-ils, verront le jour bientôt. J'ai le plaisir de parler avec Marie-Hélène Tanguay, responsable des communications à l'Association québécoise pour l'équité et l'inclusion post-secondaire, qui est peut-être mieux connue sous l'appellation LACEPS. Bonjour, Madame Tanguay.
Oui, bonjour, Madame.
Alors, merci d'être avec nous.
Bonjour tout le monde, oui.
Bonjour, bonjour. Plaisir. Alors, LACEPS donne un atelier gratuit en collaboration avec Mémo Québec intitulé « La communication et l'emploi ». Ça va se dérouler très bientôt, le 22 novembre prochain, sur la rue Jean-Talon-Est, bureau 400 Saint-Léonard. Oui. Quels sont les enjeux, Madame Tanguay, les enjeux de communication pour les étudiants en situation de handicap à la recherche d'un emploi?
Bien, en fait, c'est important de savoir que quand on est un étudiant en situation de handicap, on peut avoir de la difficulté à mentionner ses besoins, même si on connaît sa situation de handicap parce qu'on a peur des tabous, on a peur de la réaction des gens.
Oui.
Donc, c'est pour cette raison-là que cet atelier-là, selon moi, est primordial pour apprendre de façon générale comment on peut justement bien nommer ses besoins à l'employeur et ainsi qu'à ses collègues.
Oui.
Parce que c'est un volet qui va être aussi touché, comment mentionner ses besoins à ses collègues.
Et j'imagine que ça va aider à la confiance en soi.
Oui, tout à fait. Si on a une meilleure façon de communiquer ses besoins, on se sent plus en confiance pour débuter un nouvel emploi ou maintenir un emploi.
Et qui va animer cet atelier?
Oui, il s'agit de Mme Samira Fezani, qui est conseillère donc à Mémo Québec,
oui,
au service d'employabilité. Il s'agit aussi de Mme Brigitte Filiatro et M. Mario Girard, aussi conseiller. Et vous devez savoir, à titre d'information, que Mémo Québec, anciennement Association des paraplégiques du Québec, qui a été fondée dans les années dans les années 76, et le service, en fait, a été fondée en 1970. En fait, non, l'association a été fondée en 1972.
Oui, dans les années 70.
Oui, dans les années 70, c'est plus simple. Et le service d'employabilité de Mémo Québec a été l'un des premiers en termes de services en employabilité pour les personnes handicapées.
Oui, d'accord. Alors, quel est son rôle à ce service d'employabilité de Mémo Québec? Que fait ce service-là, plus particulièrement?
En fait, ce service-là aide principalement les personnes qui ont une déficience motrice à se trouver un emploi et fait le pont entre l'employeur et la personne en situation de handicap.
Oui.
Et en fait, aussi agit à titre d'agent entre si la personne a besoin d'un contrat d'intégration au travail.
Mm-hmm.
Donc, la personne peut la conseillère va agir à titre d'intermédiaire entre les deux, entre son client et Emploi Québec.
Bon, d'accord. Alors, tantôt, vous avez dit que les étudiants vont apprendre à mieux communiquer, à se faire confiance aussi en allant rencontrer un futur employeur.
Oui.
Alors, dans le cadre de cet atelier, qu'est-ce qu'ils vont apprendre d'autre? Parce que j'imagine que ça dure une journée, ça, cet atelier? Non, de 13h à 16h, un après-midi. Alors, qu'est-ce qu'il y aura au menu?
Oui, en fait, ce qu'il va avoir au menu, c'est les différents canaux de communication qui est possible d'avoir avec un employeur et un collègue, comme je le disais tout à l'heure. Ouais.
OK. Et comment s'inscrire?
Comment s'inscrire? Bien, en fait, c'est auprès de moi au 514-499-9451.
514-499-9451, oui.
C'est ça, oui. Et aux communications avec un S à commercial aqueps.qc.ca.
D'accord, aqueps.qc.ca. Alors, quel est le moyen le plus facile pour s'y rendre si on est en transport en commun?
Ben en fait, c'est le métro Jean-Talon. Bonne question.
Oui, mais rue Jean-Talon-Est, j'imagine que si on s'arrête au métro Jean-Talon, on a des bonnes chances d'y accéder.
Oui,
mais je ne suis pas sûre parce que c'est à Saint-Léonard. Il faudrait vérifier.
Oui, écoutez, je dirais aux auditeurs de me téléphoner.
Oui.
Et puis, ça va être le mieux. Et puis, je dirais aussi que les personnes qui ont un handicap visuel peuvent aussi venir, compte tenu qu'il s'agit de la communication. Donc, mais c'est sûr qu'il faut mentionner que pour les étudiants qui ont un handicap visuel au niveau pour les services d'employabilité, c'est bien de s'informer auprès de Horizon Travail.
Parfait. La communication et l'emploi, c'est le titre de cet atelier gratuit, oui. 22 novembre de 13h à 16h au 60-20 Jean-Talon-Est, bureau 400 à Saint-Léonard. Merci Marie-Hélène Tanguay.
Merci,
bon atelier.
Ça m'a fait plaisir. Au revoir.
Au revoir. Cri du cœur des résidences intermédiaires en Mauricie, des résidences d'hébergement de la région tirent la sonnette d'alarme. Elles ont du mal à recruter et à garder leurs préposés aux bénéficiaires au point où la maison Mava à Trois-Rivières craint pour la pérennité de ses services. Les ressources intermédiaires des établissements publics font en quelque sorte le pont entre la maison et le centre d'hébergement de soins de longue durée. Pour être infirmière, il ne nous manque pas grand-chose. On fait les glycémies, on prend les tensions, on donne les médications, ce que les préposés dans les CHSLD ne font pas, affirme Ghislaine Desmarais, une préposée aux bénéficiaires de la maison Mava. Selon l'Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec, le principal problème est que les préposés aux bénéficiaires qui travaillent dans les CHSLD ont de meilleures conditions de travail que dans les ressources intermédiaires. Elles sont notamment beaucoup mieux payées que dans les ressources intermédiaires. Le personnel est donc moins nombreux à migrer vers les CHSLD. La Mauricie et le centre du Québec comptent 60 ressources d'hébergement intermédiaire et 1247 personnes y résident. La présidente de la Maison Mava demande au ministère de reconnaître ça, de nous aider à donner un salaire juste. L'établissement a dû renouveler 20 % de son personnel depuis le printemps en raison des départs. Et nous allons rejoindre en direct du Salon du Livre, puisqu'elle est une invitée d'honneur. Sophie, bienvenue, auteure, blogueuse franco-québécoise qui nous a donné « Et au pire, on se mariera », qui a été portée à l'écran tout récemment, « Chercher Sam », autour d'elle son plus récent roman. Bonjour madame, bienvenue.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre demande d'entrevue, parce que je pense que vous ne savez plus où donner de la tête. Vous êtes bien occupée, bien sollicitée.
Oui. En ce moment, c'est vrai que c'est un petit peu fou là. Aujourd'hui, là, ce matin, je suis chez moi, mais je m'en vais au Salon du Livre incessamment.
Ok, d'accord. Et hier, moi, j'étais au Salon du Livre et j'ai pu feuilleter votre nouvelle parution pour la jeunesse, la princesse qui voulait devenir générale, et j'ai eu envie d'avoir 8 ans. C'est pour les 8 ans et plus. Publié
oui,
aux éditions de la Bagnole.
Pour les grands enfants.
Ah, vraiment, ça a l'air tout à fait passionnant. Et puis, vous avez accepté notre demande d'entrevue pour parler de quelque chose de plus personnel. On va aussi parler de autour d'elle, mais vous avez reçu récemment un diagnostic de syndrome d'Asperger.
Oui.
Et comment vous avez absorbé cette nouvelle?
En fait, quand j'ai réalisé, parce que les différences cognitives, les maladies mentales, c'est comme un de mes intérêts particuliers depuis très longtemps.
Mm-hmm.
Et je connaissais bien le syndrome d'Asperger, mais je ne connaissais pas le syndrome d'Asperger au féminin.
Ah non.
Qui est différent de qui se présente différemment en fait.
Ah oui.
Et quand oui, ça paraît moins en fait chez les femmes a priori. Les intérêts particuliers sont différents, etc. Mais et donc c'est ça, c'est sous-diagnostiqué chez les femmes à cause de ça en fait que c'est moins, ça a l'air moins envahissant.
Mais comment vous l'avez appris vous? Comment vous avez pensé que vous pouviez vivre avec ce syndrome?
C'est en voyant, en fait, par pur hasard, une vidéo sur Internet passée sur une jeune femme française, une Française qui s'appelle Julie Dachet, qui a aussi le syndrome d'Asperger, où elle explique ce que c'est l'Asperger au féminin.
Mais ce que c'est en quelques mots, comment vous pourriez l'expliquer?
Mais en fait, il faut oublier tous les clichés qu'on a en fait sur le syndrome d'Asperger, mais oui et non en fait je vous dirais, mais
ouais.
j'ai les mêmes difficultés, disons les bruits, non, j'aime pas trop en fait faire de catégorisation parce qu'il y a autant de façons d'être Asperger que d'Asperger de ce que je sais, de ce que j'ai lu, mais il y a des choses quand même des choses qu'on
les grandes qu'on lignes retrouve, des ou des points communs
lignes,
ouais.
C'est-à-dire des sensibilités sensorielles qui sont plus développées chez moi, une façon de gérer les émotions qui est différente que chez les neurotypiques, pardon. Il y a beaucoup de façons d'aborder les choses, des rigidités, en fait,
ouais.
Des habitudes. Je pourrais vous faire une liste très longue. Là,
Allez-y.
Une difficulté surtout à décoder les... Le second degré, puis les expressions faciales qui parfois créent des drôles de quiproquos.
Oui, parce que ça a un lien quand même avec l'autisme.
Oui, c'est ça, oui. En fait, l'Asperger en tant que tel n'est plus diagnostiqué. On dit qu'on est sur le spectre de l'autisme, TSA en fait.
Ouais.
Mais ça reste quand même, on va appeler un chat, là,
ouais.
Ça reste quand même l'Asperger.
Oui. Et est-ce que... votre syndrome d'Asperger et votre style d'écriture, est-ce que vous faites un lien entre...
Ben aujourd'hui, oui.
Tout ça, oui.
Je pense pas que je pourrais être... avoir un... Ben, ce qu'on dit de moi, en fait, c'est que j'ai un talent pour décrire les émotions puis faire vivre les émotions à mes lecteurs.
Oui,
mais,
je suis d'accord.
Ça fait 37 ans que je les observe.
Oui.
Et que j'essaye de les... et que j'essaye de les mimer et de les comprendre. Et donc, je réalise, en fait, aujourd'hui, que je sais que que je suis Asperger, que j'aurais pas une aussi bonne connaissance, en fait, des émotions. Si j'étais pas atteinte, mais si j'étais pas Asperger.
Oui. Alors, d'une certaine façon, c'est quelque chose de positif dans votre vie.
Il faut bien qu'il y ait des avantages, parce qu'il y a quand même pas mal d'inconvénients.
Ah oui. Et qu'avez-vous... oui, allez-y.
Disons que c'est quand même très difficile pour moi d'évoluer dans une société de neurotypiques. Il y a beaucoup de choses que je comprends pas, comme pourquoi on fonctionne pas avec la logique. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est encore très douloureux pour moi. Là, si quelque chose est logique, s'il y a des faits, je ne comprends pas forcément que des émotions viennent contrecarrer les faits. Donc, c'est souvent ça, je veux dire, dans la société. Discuter dans des cocktails, par exemple, quand il y a beaucoup de monde, c'est une grande partie de mon métier. Faire du small talk, c'est quelque chose qui est très, très, très fatigant pour moi. Tout doit passer, en fait, par la réflexion, pour pas dire de bêtises, qui m'arrivent comme vraiment constamment. je dois vraiment réfléchir et c'est vraiment très fatigant.
Oui.
Encore plus que pour un neurotypique, mettons.
Neurotypique, quelqu'un qui n'a pas le syndrome d'Asperger ou...
Ou un autre... Oui, c'est ça.
Qui n'est pas dans le spectre, dans le TS... Comment on l'appelle déjà?
Le trouble du spectre de l'autisme.
Oui, c'est ça. Et si on parlait de votre roman « Autour d'elle », qui est en nomination pour le prix des libraires?
Oui, au prix des libraires.
Il était, OK, d'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez voulu explorer dans ce roman?
Le défi, c'était de vraiment faire des instantanés du plus de personnages possible, en fait, et d'explorer le plus de différences possibles et de montrer le plus de vies différentes comme un recueil de nouvelles, en fait. Mais ce qui me frustre toujours dans un recueil de nouvelles, c'est de pas avoir de lien. Souvent, il n'y a pas de lien entre les histoires. Donc, il y a un personnage qu'on voit dans une nouvelle et qu'on retrouve pas forcément. Et donc là, ce que j'ai voulu faire, c'est que 19 personnages racontent leur histoire et en parallèle, leur point commun, c'est qu'ils ont tous rencontré la même personne, Florence Gaudreau, ou son fils, Adrien, à un moment dans leur vie.
D'accord.
Et donc, eux racontent leur histoire et on en apprend plus sur Florence et Adrien au fil de la lecture. Donc, le défi, c'était de faire parler 19 personnages en un roman.
Oui, la mère et le fils.
Le fils.
Oui, c'est ça. Alors, autour d'elle, c'est à lire. Moi, j'ai commencé à lire, j'ai dévoré « Et au pire, on se mariera », chercher Sam, comme bien des gens, m'a complètement chavirée. Et autour d'elle, je commence à me laisser prendre là, par cette histoire.
Oui, c'est différent.
Oui. Alors, si on veut vous rencontrer, vous êtes partout. Il y a des séances de dédicaces pour à peu près toutes vos œuvres. Stand 117, 402, 538 et j'en passe. 116, autour d'elle, 546. Et puis, on va pouvoir vous voir à Tout le monde en parle. Je vous souhaite un beau salon du livre et puis continuez de nous donner des œuvres comme vous le faites.
Merci beaucoup de m'avoir invité.
Au revoir, Sophie, bienvenue.
Au revoir.
C'est en ayant un objectif d'équipe en tête plutôt qu'un objectif individuel que l'escrimeur en fauteuil roulant Pierre Mainville a entamé les championnats du monde. Mercredi dernier à Rome, le vétéran de Saint-Colomban a été le meilleur Canadien avec une 19e place à l'épée masculine B. Mainville a remis une fiche de 2-3 en poule pour ensuite s'avouer vaincu 15-9 contre le Letton Oleg Garkuls Gurevics, éventuel 7e dans le tableau par élimination directe. Le Britannique Dimitri Coutia a eu raison de l'Italien Alessio Sarri en finale pour l'or. Deux de ses défaites en poule se sont terminées par la marque de 5-4. Ce sont des matchs que j'aurais pu gagner. Je suis quand même content, car malgré ma blessure à un coude, j'étais capable de tirer. Je n'avais pas vraiment d'espoir de médaille, a relaté Mainville, ajoutant que le Letton a été la révélation du jour dans cette catégorie. L'escrimeur québécois de 44 ans pensait bien prendre sa retraite sportive cette année ou l'an prochain. Sauf que l'arrivée de nouveaux membres dans l'équipe nationale a changé la donne. Cette année, nous participons à la compétition par équipe et pour ne pas les laisser tomber, j'ai décidé de continuer jusqu'à ce qu'on trouve un remplaçant. On verra où ça va me mener. J'ai toujours voulu faire des compétitions par équipe pendant ma carrière et lorsque ça se présente, c'est quand je pensais arrêter, conclut-il, en riant. Les cours de guitare gratuits pour musiciens aveugles débuteront dimanche 19 novembre dans la grande région de Montréal. Braille Tab est heureux d'offrir aux guitaristes débutants ou futurs guitaristes aveugles de la région métropolitaine une première session de 10 cours de guitare gratuits. Les cours seront animés par Jean-Pierre Lessard, guitariste professionnel et fondateur de Braille Tab. Le matériel adapté en braille sera fourni gratuitement aux participants. Les cours auront lieu au 2585 Avenue Bennett, c'est l'édifice locatif de la Fondation des aveugles du Québec, le dimanche de 13h à 14h30. Il reste encore quelques places, donc pour les intéressés, vous devez vous inscrire en ligne en complétant le formulaire suivant braille-tab.com/cours-gratuit. Et dans le progrès.net, salle comble pour entendre le témoignage de Grégory Charles à Coaticook. Grégory Charles est venu témoigner de son vécu de proche aidant lors d'une conférence tenue au pavillon des arts et de la culture de Coaticook lundi dernier 6 novembre. Il a raconté le parcours de sa mère atteinte de la maladie d'Alzheimer au cours des dernières années, de même que de l'aide qu'il porte à son père, lui aussi aux prises avec la terrible maladie. Monsieur Charles a aussi revendiqué un statut pour les proches aidants afin d'aider ceux-ci dans leurs tâches. Grégory est très humain. Il est un être très touchant. Il a été généreux de son temps, demeurant avec les gens au pavillon afin de répondre à leurs questions, témoigne l'une des organisatrices de la soirée, Lucie Lheureux. L'activité a été organisée par le Centre d'action bénévole de la MRC de Coaticook dans le cadre de son projet « Service aux proches aidants » de la MRC de Coaticook. Voilà, c'est tout pour les paractualités de ce 16 novembre. Merci à mes invités, Marie-Hélène Tanguay de La Keps et aussi Sophie Bienvenue, auteure, blogueuse franco-québécoise. Merci à mon équipe, Anne-Laure Janson, à la recherche et à la mise en onde, Mathieu Tessier. C'est Hélène Denis, bonne journée. Et les paractualités, ben, vous pouvez les retrouver sur notre site Internet, Canal M de Vues et Voix. Quant à moi, je vous souhaite une belle fin de semaine et on se retrouve lundi.